Bonjour à tous. Un très bon début de semaine. Je sais que ce matin, c'est un peu chaotique avec ce qui se passe dans l'industrie du taxi. Une industrie qui est très en colère ce matin. Puis je tenais à ce qu'on débute l'émission en faisant le point d'ailleurs pour tous ceux qui sont dans leur véhicule en ce moment et qui nous écoutent dans la grande région de Montréal. J'ai demandé à mon collègue Marc Brière de faire le point là-dessus. Merci Marc d'être là. Je sais que tu as été toute la matinée à suivre un peu les déplacements. Oui. Ou plutôt, où est-ce qu'on peut y aller? Où est-ce qu'on peut se rendre là ce matin? Comment se rendre?
À suivre le non-déplacement dans certains cas, parce qu'à un certain moment, l'autoroute métropolitaine était bloquée complètement par les manifestants, donc les trois voies de large. Je vous parle d'une heure de pointe qui s'étire jusque dans ton émission, Isabelle, ça veut tout dire. Ça veut dire que c'est encore très difficile sur le réseau et que ces manifestations ce matin ont un impact réel pour les gens qui doivent circuler dans la région de Montréal. Sur la métropolitaine ouest présentement, c'est encore dans le secteur de l'Accordaire jusqu'au rond-point des Carrés. Et par la suite, pour les gens qui se dirigent vers l'aéroport via l'autoroute 520, qui est l'autoroute Côte-de-Liesse, ça aussi, c'est complètement congestionné. Donc, si on veut, là, de l'est vers l'ouest, à partir de Saint-Léonard jusqu'à Dorval, c'est pratiquement une longue file d'attente. Il y a peut-être des petits tronçons, ça roule un peu mieux, mais vraiment beaucoup de difficultés.
On en a pour combien de temps, tu penses?
Au courant de la journée, on verra si ça touchera l'heure de pointe de cet après-midi. Mais ce que j'ai entendu ce matin, c'est qu'on allait circuler dans le rond-point d'Orval, compliquer les choses pour les automobilistes, les camionneurs qui ont affaire dans ce secteur-là. Par la suite, on doit revenir en ville par l'avant. Et bon, centre-ville, je pense au boulevard René-Lévesque, je pense à certains endroits là où c'est fort achalandé, mais on a déjà des difficultés à circuler. Imagine avec ce genre de manifestation. À un certain moment, c'était arrêté sur la métropolitaine, je parle des manifestants, mais quand on bougeait, 5 km à l'heure à peu près. Ça donne le topo, là, vraiment.
Qu'est-ce que t'en penses, toi, d'une industrie qui prend en otage toute une région comme ça?
Mais à chaque fois que ça se produit, j'ai beaucoup de misère avec ça parce que je trouve qu'on cible pas la bonne personne. Je comprends qu'une manifestation, le but, c'est de déranger. Et dans ce cas-ci, c'est clairement réussi. On dérange, c'est vrai. On veut faire jaser, mais en même temps, on s'attaque à des gens qui veulent juste se rendre au travail ce matin, qui veulent faire tourner l'économie. Il y a des gens pour qui il y a des impératifs d'être à l'heure. Et puis, on peut difficilement s'y rendre. Si on perd une heure, deux heures avec cette congestion-là, qu'on arrive en retard, il y a les enfants à la garderie, il y a le travail. Je comprends le principe, mais je trouve toujours que c'est contre-productif de s'attaquer aux gens qui veulent juste aller travailler. Oui, on veut faire jaser, puis ça va fonctionner. Garde, je suis là pour t'en parler ce matin. Mais en même temps, est-ce qu'on parle de la bonne chose? Est-ce qu'on parle de vraiment ce qui est demandé par ces gens-là? Ou si on parle des problèmes qui sont causés? Dans mon cas, ça amène plus de problèmes que de bénéfices. Et je trouve que c'est une stratégie du passé qui devrait être changée. Mais ce n'est ici que mon humble avis.
Mais effectivement, mais je pense que c'est important d'avoir l'autre son de cloche. Puis je sais qu'il y a beaucoup de chauffeurs de taxi qui nous écoutent d'habitude. Et sincèrement, je pense qu'il faut aussi mettre de l'eau dans le vin de tout le monde ici. Parce qu'il faut quand même se rendre à l'évidence. Toute la question de l'industrie du taxi, c'est aussi l'évolution de la société. Quand on dit le gouvernement a changé les règles, Marc, c'est aussi le consommateur qui a choisi. Quand un consommateur choisit un autre organe ou entreprise pour, entre autres, se véhiculer, dans le cas qui nous occupe, c'est Uber, quand le consommateur te dit « ben moi, je prends plus mon taxi, je vais prendre un Uber désormais », c'est un message qui est envoyé à une industrie qui est peut-être un peu désuète.
Mais qui est embourbée dans ses vieilles habitudes.
Exactement. Et malheureusement, le changement... par des vieilles règles, qui n'a pas voulu s'adapter. Et c'est un fait, il y a tout à l'heure quelqu'un qui a appelé dans l'émission de mon collègue Paul Arcand qui explique qui a très bien l'enflure dans les prix des permis de taxi. Oui. Moi, je pense qu'il faut aussi dire ça. Là. C'est aussi bien beau de dire on va compenser parce que ça nous pend au nez, ça, je pense. La compensation des permis. Oui. Mais il y a eu une enflure. Ces permis-là, pourquoi ils valent? On dit qu'ils valent 200 000 $ aujourd'hui. À l'époque, ils ne valaient pas ce prix-là. Non. Il y a eu une enflure, puis il y a des propriétaires de licences qui ont fait beaucoup d'argent. Pourquoi le contribuable paierait pour ça?
Non, c'est vrai. Il y a des propriétaires qui avaient plusieurs permis. Mais c'est beaucoup, beaucoup de sous qui sont en jeu. Mais c'est vrai qu'il y a eu enflure au niveau des prix. C'est pas quelque chose qui est fixe. Ça va avec l'offre, la demande. Puis à un certain moment, bon, ben c'était limité dans le nombre d'offres, donc la demande augmentait, les prix augmentaient aussi. On se retrouve avec une situation où arrive une nouvelle technologie, peut-être de façon un peu sauvage, qui s'implante, mais la clientèle, elle est là. La preuve, c'est qu'il y a des gens qui prennent Uber.
Et justement, l'idéal, ce serait vraiment qu'Uber paye des impôts. Oui. Mais tu sais, en même temps, quand on dit « je veux pas donner mon argent à une entreprise qui n'est pas d'ici », Uber prend pas... Quand vous payez 15$ de Uber, vous donnez pas tout à Uber. C'est pas 15$ qui s'en va à l'extérieur dans des paradis fiscaux. Il y a qu'une partie qui est...
C'est vrai.
Qui s'en va à Uber. C'est sûr qu'il faudrait qu'ils payent des impôts comme tout le monde.
Mais c'est ça, c'est que c'est pas tout noir ou tout blanc. Là. C'est qu'à un moment donné, il y aurait des trucs à améliorer des deux côtés. Mais l'industrie du taxi, pour en revenir à eux, puisque ce sont ce sont eux qui sont en cause ce matin. C'est simplement ça, c'est que cette industrie-là est restée encrassée dans ses vieilles habitudes. Et puis, quand la possibilité d'avoir un service, un meilleur service, des véhicules plus propres, eh ben les gens se sont tournés vers ce nouveau service-là.
Sais-tu ce qui me fait décrocher, moi, ce matin?
Quoi donc?
Ça me met assez en furie. C'est quand on dit, là, puis je lis de l'article du Journal de Montréal qui dit, le président de l'Association haïtienne des travailleurs de taxi, Carlo Hector, qui dit, on ne sait pas comment on va faire pour survivre, c'est inhumain. Bonnardel, assassin, Bonnardel, François Bonnardel, le ministre des Transports, et il dit, j'ai travaillé 30 ans pour ça, là, tout tombe à l'eau, puis ça, on compatit beaucoup.
Oui.
Mais quand il parle, par exemple, de racisme, il dit, c'est inhumain, raciste et arrogant ce qu'on nous fait. Là, le bout raciste, là, ça, je suis désolée, ça passe pas. Moi, je suis vraiment tannée, comme Québécoise, de me faire traiter de raciste. Mais là, il va falloir que ça arrête.
Je pense pas que c'est ça qui est en cause. Là.
Non, mais c'est ça qu'on dit. Puis les pancartes ce matin, là, c'est ça, là, encore.
Ouais, les slogans,
Québécois racistes, le gouvernement raciste. Hey, lâchez-nous avec le racisme, là.
Je pense pas que c'est ça le point du débat, le point principal, c'est pas ça du tout. Là. C'est un argument qu'on utilise à tout vent, mais dans ce cas-ci, l'enjeu est vraiment ailleurs.
On s'attaque à un symbole qui représente la multiethnicité. Est-ce que le premier ministre François Legault est un raciste à lancer le porte-parole de taxi, Serge Lebreu?
Ben voyons. C'est pas un argumentaire, ça. Puis si, oui, les gens, les chauffeurs de taxi, je pense à beaucoup de chauffeurs de taxi, c'est vrai que c'est difficile de joindre les deux bouts. C'est un travail qui est exigeant, qui demande de nombreuses heures pour une petite paye. Mais c'est à l'industrie, justement, de voir à ça. C'est pas le seul métier où c'est comme ça.
Merci beaucoup, Marc. Je vais enchaîner là-dessus avec mes invités parce que c'est comme un peu lié, finalement, mon premier sujet que j'avais prévu pour vous. Jean Tremblay, ancien maire de Saguenay, est avec moi. Merci, M. Tremblay, d'être là.
Merci.
Gilles Laporte est historien. Il est prof d'histoire au cégep du Vieux-Montréal, chargé de cours en histoire à l'UQAM. Bonjour, Gilles.
Hello.
Bon, on parle de l'industrie du taxi, mais notre premier sujet à nous ce matin devait être les signes religieux. Tout ça est lié, quand je parle de racisme, de xénophobie, de présente, parce que là, on parle de multiethnicité, donc des multiculturalisme. Évidemment, je voulais avoir votre réaction a priori là-dessus, puis le lien est quand même faisable avec notre sujet qui traite de la présence de l'autre par rapport aux signes religieux. Les accusations de racisme qui font légion par les temps qui courent, en particulier là ce matin dans un cas qui nous occupe par rapport aux chauffeurs de taxi, vous en pensez quoi, M. Tremblay?
Moi, je suis comme vous, là, je vous écoutais. Je suis plus capable non plus. C'est pas vrai qu'on est raciste à toutes les fois qu'on pose un geste comme celui-là. Il y a des individus qui peuvent être racistes à l'occasion. Il y en a toujours eu, puis il va toujours en avoir, là. Mais dire qu'on a un vrai problème dans la société avec le racisme, je suis pas d'accord avec ça du tout. Je trouve qu'on ne l'est pas. Même dans des régions plus éloignées où on n'est pas habitué, comme chez nous, par exemple, à Saguenay, où il n'y a pas vraiment... ça fait pas longtemps qu'on voit des gens, par exemple, de couleur noire. On n'a pas vu ça souvent. Ou les musulmans, on n'a pas vu ça souvent. Mais ils sont très bien accueillis. Puis j'entends jamais de commentaires négatifs. Puis non, je pense que c'est... Puis aujourd'hui, vous savez, avec tout ce qu'on voit de médias sociaux, puis de télévision, puis de radio, puis on est habitué un peu, là, on voit ça un peu partout.
Les Québécois voyagent aussi,
ils
sont sortis.
Ah oui, ça voyage énormément. Non, ça, je suis comme vous, là, on est tanné de ça.
Gilles Laporte.
On est tanné, mais les pleurs de bananes vont désormais se multiplier, puis il va falloir apprendre à vivre avec elles. C'est-à-dire que l'accusation de racisme, elle est... ad nominem, c'est-à-dire c'est final. Ça disqualifie totalement la personne qui en est accusée. Après ça, il faudra vérifier si c'est vrai ou pas. Mais dans la mesure où on profère cette accusation-là, c'est fini. L'individu en face, désormais, est un affreux. C'est pour ça qu'il faut faire attention. C'est désormais un paysage miné à propos des communautés et tout le reste. Et une question comme le taxi finit par déborder de ce côté-là, c'est dire combien la question des signes religieux, la laïcité de l'État est désormais un territoire miné. Si on abordait la question, par exemple, de l'enlèvement des crucifix à l'heure actuelle, ce qui est tout à fait caractéristique, c'est que ceux qui enlèvent le crucifix à l'heure actuelle, à l'Hôtel-de-Ville de Montréal, sont justement ceux qui nous disaient, il y a quelques années à peine, il faut pas toucher à ces questions-là. C'est pas important. Laissons les choses telles qu'elles sont. Et là, tout à coup, on pose un geste. Lorsqu'on pose un geste comme ça, qui peut être intéressant, on peut discuter de l'égalité de l'État, il faut que ça se fasse de façon responsable, coordonnée. Et là, lorsqu'on commence à le faire à la pièce, ben, on braque une communauté contre une autre, les gens ce matin s'offensent que l'on pose ce geste-là parce qu'il n'y a pas de vis-à-vis, il n'y a pas d'équilibre dans les législations qui sont accordées. Ironiquement, on a soit la démarche de Québec à l'heure actuelle qui est très, très mesurée, posée au point d'en être immobile, ça bouge oui. pas, où on a un geste assez gratuit, je dirais même arrogant de la ville de Montréal, qui dit, bon, vous faites ce que vous voulez, nous enlevons le crucifix, et puis le reste du Québec fera ce qu'il veut. Et ça, c'est un message absolument arrogant, discriminatoire aussi, parce que ça vise une communauté, et tout compte fait, ça ouvre la porte à la poursuite là, des accusations gratuites. Et dommageable.
On va enchaîner d'ailleurs là-dessus. Va se joindre à nous après la pause Luc Faneuf, qui est théologien, qui a déjà enseigné l'éthique et la culture religieuse. Évidemment, en ce qui concerne l'industrie du taxi, on en a déjà débattu ici à cette émission longuement. J'en ferai pas plus de cas ce matin que ce que vous entendez déjà. C'est déjà assez pénible comme ça sur les routes. Vous êtes en bonne compagnie. On est là pour vous accompagner tout au long de cette matinée. Il y a Normand qui m'écrit toutefois. Il y a des milliers de personnes qui ont lancé des commerces qui sont partis en affaires et suite à la concurrence, à la compétition, ont perdu des milliers de dollars. Ils n'ont pas, eux, droit à des compensations monétaires. Donc, il parle à l'industrie du taxi en disant « Vous êtes bien chanceux que le gouvernement se soit offert de racheter vos permis en distribuant des millions de dollars provenant de nos taxes. » Cette grève-là, visiblement, ne lui plaît pas du tout ce matin. On va s'arrêter ici. Très courte pause. On poursuit sur notre sujet, donc, et je vais vous poser la question. On les met où, ces fameux signes religieux qui sont devenus trop ostentatoires pour qu'ils soient à notre vue? On parle de ce crucifix, donc, qui va être enlevé dans la salle du Conseil de ville de Montréal pendant les rénovations et qui n'y sera pas remis. Ça sera une autre place qu'on va lui réserver, une place plus muséale, semblait dire la mairesse. Et là, on semble dire aussi à Québec qu'on va être ouvert peut-être à discuter de la place du crucifix à l'Assemblée nationale. Bref, les croix sont à veille de prendre le bord partout au Québec. Va falloir vous y habituer, ça a l'air d'être ça. 514-790-9850 pour nous joindre sur ce sujet. Vous faites sans frais partout au Québec, le 1-866-790-9850. À tout de suite. Alors, on les met où, ces signes religieux ostentatoires tels que le crucifix, parce que vous l'avez bien compris, hein, c'est bel et bien vrai, le crucifix au conseil municipal de l'Hôtel de Ville de Montréal va prendre le bord. C'est ce qu'a décidé la mairesse Valérie Plante, sans aucune consultation, ce qui déplaît à beaucoup de monde. Et là, le premier ministre François Legault accepterait même de débattre du retrait du crucifix du Salon Bleu. Il y a un projet de loi qui va être déposé prochainement sur la laïcité. Il a dit qu'il faut que tout le monde fasse des compromis. On les met où, ces signes, là? J'aimerais entendre Luc Faneuf, qui est théologien. Il a déjà enseigné l'éthique et la culture religieuse. Bonjour, Luc.
Bonjour, monsieur aussi en studio.
Votre opinion là-dessus? Oui, en effet, je suis en compagnie de Jean Tremblay, ancien maire de Saguenay, et de Gilles Laporte, historien. Luc, comme théologien, comment tu vois la chose?
Ben, je la vois aussi comme éducateur qui a fait une maîtrise en histoire sur la Révolution tranquille puis la débâcle de l'Église catholique dans ce contexte-là. Puis mon expérience dans les écoles, je comprends très bien là la valeur symbolique. Puis bon, un crucifix dans les assemblées nationales, c'est pas comme un crucifix dans les salles de classe, mais il y a quand même des parallèles à faire au sens où, je veux dire, j'ai fait tout mon cours j'ai fait tout mon cours à Brébeuf, je suis arrivé là dans les années 78-79, puis j'ai vu la déconfessionnalisation, laïcisation, disparition des jésuites d'abord, qui est dans nos salles de classe, au conseil d'établissement, les crucifix, la présence juste globale. La société s'est déconfessionnalisée, les écoles ont suivi le pas. Évidemment, il y a des écoles privées qui ont conservé l'esprit chrétien, plus ou moins, en fait la plupart l'ont pas tellement conservé, sinon peut-être les belles grandes valeurs humanistes de la tradition chrétienne, mais sans l'afficher de façon ostentatoire. Et là, je trouve ça, à la limite, comment dire, le mot est fort, mais j'ose le lancer, une certaine part d'hypocrisie par rapport au fait de, tu sais, les taux de pratique, là, puis là, je confesse, là, moi, je suis un croyant pratiquant à tous les dimanches, donc c'est pas un débat, j'en fais pas un truc personnel, mais je me dis, on a déconfessionnalisé, il y a 5% de pratiques religieuses au Québec. Avant, bon, le Duplessis le clérico nationaliste de l'époque, les évêques et le pouvoir politique qui étaient sous la même couette. Là, à un moment donné, la société a évolué, puis je veux dire, l'immense majorité des Québécois, que ça soit bien ou mal, chacun en conscience porte un jugement, on est ailleurs, c'est autre chose. Oui, on pourra jamais effacer l'histoire. Oui, l'impact du religieux catholique depuis la fonde, le jour 1 de la fondation de la Nouvelle-France, ça a été majeur, ça a été la matrice identitaire du Québec. On leur doit énormément. Mais là, le Québec est ailleurs, alors on fait quoi?
Donc toi, tu dis, t'es pour ça, tu dis que c'est un signe qu'on est rendu là, on n'a plus besoin de montrer notre allégeance ancienne à la religion catholique.
Ben, c'est parce que aussi, je veux dire, sans parler de théocratie, parce que c'était pas le cas, là, mais je veux dire, à un moment donné, en rendant à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, je veux dire, oui à la liberté de culte, de religion, oui à ceux qui veulent s'associer et manifester comme chrétiens, catholiques ou autre religion, mais à un moment donné, on est dans un contexte où, la modernité a fait en sorte que, c'est la laïcité maintenant qui est le nouveau dogme, entre guillemets.
Gilles, nous en sommes là. Ceci dit, procédons par ordre. À l'heure actuelle, il y a une municipalité qui décide d'ostraciser une religion en particulier, de la pointer, la religion chrétienne, partagée, des valeurs chrétiennes partagées par la majorité de la population. Mais en revanche, en ce qui a trait à tous les autres signes religieux, a aucun problème. C'est la liberté individuelle. On peut porter un voile, on peut porter une kippa, on peut. Et là, il s'agit vraiment, on pourra débattre à propos de l'équité entre les religions. Et je pense qu'elle est importante, ne serait-ce que pour respecter l'opinion publique. À l'heure actuelle, matin, les gens entendent qu'il y a une religion en particulier que l'on souhaite retirer de l'administration, de l'État, tandis que la plupart des autres signes religieux vont pouvoir s'exprimer de manière libre. À l'heure actuelle, à Québec, il y a une démarche responsable, délicate. Mais en revanche, à Montréal, on y va de manière unilatérale, envoyant un message, je qualifierais d'arrogant, à la fois à la population puis aux élus, leur disant qu'écoutez, le catholicisme, c'est du passé. De toute façon, la majorité historique est prête, est rendue là. Elle est plutôt complaisante. Mais en revanche, les autres communautés, il faut les préserver, il faut les protéger parce qu'elles sont plus sensibles.
Faut les inclure, en fait.
Faut les inclure et ouais. Ça passe en somme par deux vitesses. Et là, il y a un vrai problème. Ça s'est pas fait de manière coordonnée. C'est irrespectueux et on va assister à un braquage. Là où la mairesse croit qu'elle résout un non-problème, en fait, elle en crée un.
Là-dessus, Luc, j'aimerais t'entendre parce que sur l'espèce de déséquilibre entre désormais la religion chrétienne historique et l'arrivée de nouvelles religions qui viennent et qui s'affirment ici. Comment tu vois ce déséquilibre?
C'est complexe, hein? Ouais. C'est vraiment complexe. C'est que d'une part, puis Monsieur Laporte là-dessus, je le suis complètement. Là, c'est clair qu'il faut que les choses soient lui dit de façon coordonnée. Moi, je veux dire de façon respectueuse ou avec doigté, parce que évidemment, dès qu'on touche aux questions de croyance, on touche à des questions identitaires, ou des questions historiques. Donc, c'est vraiment à manipuler avec soin. Là, je pense que qui fait partie.
Mais à manipuler avec soin, ça veut dire quoi, Luc?
Ah, avec justement avec délicatesse, tu sais, avec pédagogie, tu sais, dans le respect des gens, les consultants. Et le reste, c'est pas arrivé avec une approche brutale, frontale, unilatérale. Donc, à ce niveau-là, oui, c'est consultons. Et voilà, allons-y, en dessous par étapes.
Mais consultons qui? Parce que là, je disais tout à l'heure que Valérie Plante n'avait pas consulté les Montréalais, entre autres, là, pour leur demander, voulez-vous garder votre crucifix ou pas?
Voilà, là-dessus, c'est un manque de délicatesse, pour parler poliment. Mm-hmm. D'accord? Mais maintenant, je pense que la problématique qui est un petit peu... ça, c'est depuis l'immigration, mais depuis, d'une certaine façon, la Révolution tranquille, où on a décroché graduellement, mais quand même massivement dans les années 60 de la pratique religieuse. Puis en fait, ce phénomène-là, s'intensifie ou se manifeste de plus en plus fort. C'est que le Québec, en tout cas, il y a une bonne part du Québec intellectuel, puis de l'intelligentsia qui a pas fini, excuse-moi, je vais le dire, de vomir son christianisme et son rapport à, la supposée grande noirceur et tout le reste. Puis, donc, qui s'est sécularisé aussi dans ses pratiques, dans ses croyances. Et de l'autre côté, t'as une immigration qui, elle, d'un point de vue, tu sais, pour qui, dans le mot culture, il y a le mot culte. Donc, la religion, ils arrivent avec leur culture, avec leur culte. Et qui, eux, tiennent à leur pratique religieuse et à la manifestation ostensible par le vêtement ou par d'autres façons. De leur religion. Et là, il y a littéralement un clash, là. Il y a un clash. T'as ces gens pour qui la religion, c'est quelque chose d'identitaire, d'important, on l'affirme. Puis t'as beaucoup, beaucoup, beaucoup de Canadiens français pour qui, ça fait partie de l'histoire, mais maintenant, ça définit plus mon identité, sinon que par les belles grandes valeurs humanistes qui ont formé l'Occident.
Mais Luc, moi, je trouve ça excessivement dangereux et tendancieux ce qui se passe en ce moment, et d'appuyer sur le clou, par exemple, du racisme, ça aide personne. Sur le clou de la différence religieuse, ça aide personne non plus. Toi,
non,
en fin de semaine, il y a tout le débat sur les médias sociaux. C'était beaucoup autour de Lynn Shand, qui est une conseillère municipale à Anjou, à Montréal, qui, sur un post Facebook, après avoir été subir un examen ophtalmologique d'urgence, est tombée sur un ophtalmologue voilé. Tu as peut-être vu son post.
Puis elle
disait, moi, j'avais pas le choix. Puis je l'ai entendu en entrevue de la fin de semaine où elle essayait de s'expliquer son point. Puis tout le bout, là, où elle disait, bon, l'islamisation de notre pays, ça, je pense qu'elle a effectivement dérapé dans ce coin-là. Mais quand elle disait, bien humblement, moi, ça m'a choqué que la médecin, puis j'avais pas le choix du médecin, c'était celle-là, elle était voilée. Ça m'a choqué d'être obligée d'être soignée par une femme voilée. Il faut aussi respecter que ça puisse choquer quelqu'un, c'est-à-dire choquer dans le sens de, mon Dieu, ça vient me chercher, ça met en cause mes profondes valeurs laïques. C'est tout ça le débat là, dans lequel on met
Exactement.
Les deux pieds dedans, là, puis il y a de la boîte là-dedans.
Il est très complexe, et là, c'est ça, on dit oui, on est ouvert. Je pense que toute notre histoire montre que, en fait, notre histoire est faite d'immigration, là, française et anglaise, avant qu'elle soit, bon, elle devienne internationale, elle reste. Je pense qu'on dit des manifestations de racisme dans l'histoire, de racisme systémique, là. Attention quand même, on charrie dans l'histoire du Québec. On montrait qu'on est inclusif. Mais là, je pense qu'il y a un contexte vraiment particulier de rejet massif d'une religion, la religion chrétienne catholique et des signes qu'il apportait, crucifix et vêtements et pratiques, dévotion. Et là, une immigration avec, d'autres religions, et d'un, c'est déjà un défi, là, s'ouvrir à l'autre, aux différents, là, la xénophobie vient de là, tout ce qui est différent dérange, on a peur de cela, puis en plus, là, ça touche des sacro-saintes valeurs québécoises, d'égalité homme-femme, puis là, toute la symbolique rattachée au port de certains vêtements, certaines pratiques, qui nieraient, parce que là, je dis nieraient conditionnel, selon les débats, les écoles, les points de vue, qui nieraient l'égalité, une certaine dignité à la femme. Ouh là là, non, c'est un débat extrêmement complexe, on n'a pas fini.
Tu vas peut-être poursuivre dans ton cours, parce que je sais que peut-être tes étudiants t'attendent. Tu as un cours à 10h30. Oui, merci beaucoup. Sauvé par la cloche, Luc Faneuf. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. On va poursuivre, bien sûr, avec mes invités. L'ex-maire de Saguenay, Jean Tremblay, est avec nous. Gilles Laporte est historien, elle est là également. Pour participer à notre discussion, dites-moi ce que vous en pensez. Comment vous voyez ça? Êtes-vous profondément encore perturbé par le fait qu'on ait sorti le crucifix de la salle du conseil de l'Hôtel de Ville de Montréal? La mairesse dit que c'est un lieu de décision, puis que le crucifix n'a plus d'affaires là. Est-ce que vous pensez que vous auriez dû être consulté comme citoyen contribuable de la région de Montréal? Ou plutôt, est-ce que c'est juste un signe de notre époque, puis qu'il faut vivre avec? Alors, on les met où, nos signes religieux? 514-790-9850. À tout de suite. Alors, c'est le moment de faire intervenir nos auditeurs sur cette question. On les met où, nos fameux signes religieux? 514-790-9850 pour nous joindre, et vous faites sans frais le 1-866-790-9850 à l'extérieur de Montréal. Yvan, bonjour.
Bonjour, Mme Maréchal.
On vous écoute, Yvan.
Oui, la société québécoise est avant-gardiste, OK? Le choix d'avoir des lieux laïques, un gouvernement laïque, ça fait vraiment partie du Québec, la société qu'elle est. Oui, je suis d'accord pour que le crucifix ne soit plus là où il est en ce moment, mais il doit avoir une place dans l'Hôtel de Ville, une salle spéciale qui va, historiquement, qui va nous dire que le Québec, le Montréal, a été construit par des catholiques, par des prêtres, par des sœurs qui ont eu des écoles. Alors ça, c'est important de s'en souvenir. Par contre, si la mairesse n'a pas consulté la population, on pense que pour qui on ne va pas voter pour la prochaine élection.
Merci. Merci, Yvan. Christine, votre opinion là-dessus?
D'accord. Alors, le sujet, c'est vraiment là sur le crucifix en tant que symbole religieux et où est-ce qu'on devrait le mettre, ou est-ce que c'est vraiment, vous avez parlé de la dame qui a été se faire soigner à l'hôpital, etc.
Mais c'est un peu tout ça, c'est ce sur quoi vous voulez intervenir, Christine. Les deux sont un peu liés, parce que c'est clair qu'il y a beaucoup de gens qui opposent la religion chrétienne avec l'arrivée d'autres religions qui ne seraient pas traditionnellement québécoises. Mais alors, c'est sûr qu'il y a une réaction un peu épidermique. Il y a bien des gens qui, moi, m'ont écrit ici et qui le font sur Facebook ou dans les réseaux sociaux pour opposer les deux, ce qui n'est pas souhaitable. Mais votre opinion, donc, par rapport à tout ça?
OK, ben dans un premier temps, pour le crucifix, là, en fait, je me posais la question, est-ce que quand ils l'ont posé dans la
salle du conseil, oui.
C'est ça. Est-ce que les citoyens ont été consultés avant de le mettre là, dans les années 30, etc.?
Ben,
c'est ma première question. Là.
Oui. Mm-hmm. J'ai Gilles Laporte peut-être qui peut y répondre,
oui,
parce qu'on en parlait pendant la pause. Tu me disais.
Effectivement, c'est assez récent. Ça date de 1937. Et pour vous répondre, c'est à peu près pour toutes les mauvaises raisons qu'on le fait. D'abord, effectivement, il n'y a pas eu de consultation. Deuxièmement, c'était véritablement afin que les lumières du Seigneur éclairent la décision du Conseil, ce qui n'est plus bon ton aujourd'hui. Et en fin de compte, c'était authentiquement une assemblée confessionnelle. Donc, les raisons initiale non plus court aujourd'hui. Évidemment que est-ce que ça veut dire pour autant qu'il faut agir de manière unilatérale en ciblant cette religion-là? La question demeure, mais je vais vous répondre là-dessus.
Mm-hmm. Christine, votre deuxième question?
D'accord. Alors, en deuxième temps, là, en ce qui concerne l'hôpital, je comprends qu'il y a des gens que ça peut heurter leur
valeur.
Leurs valeurs personnelles, etc. Mais de la même façon, il y a des gens qui peuvent être heurtés quand le docteur il est de couleur autre que blanche ou d'autre orientation sexuelle que hétérosexuelle. Ça peut les heurter aussi. Je veux dire, il va toujours avoir la différence.
Mm-hmm.
Et dans un troisième temps, il faut aussi faire la différence entre un symbole religieux et un morceau de tissu. Vous comprenez. Mm-hmm. Alors, si une femme musulmane choisit de porter un style de mode qui est autre que le modèle nord-américain, par exemple, de femme blanche, en culture dominante, si elle choisit de s'habiller autrement, je crois que c'est son choix. Et ce qui arrive maintenant dans le discours, c'est qu'on essaye de dénigrer la puissance et l'intelligence de cette femme qui vient d'ailleurs.
Mm-hmm.
Et c'est là que ça dérange, qu'il faut faire vraiment attention parce que les médias, c'est très, très important, le discours et comment on navigue le discours, parce qu'on a vu qu'est-ce qui s'est passé à Québec il y a 2 ans, qu'est-ce qui s'est passé récemment en Nouvelle-Zélande. Il faut pas rester la tête dans le sable et dire que, bon, les gens sont assez intelligents pour faire la part des choses.
Mm-hmm.
Oui, ils le sont, mais il faut pas non plus normaliser le discours de peut-être un certain extrémisme qui met l'accent sur la culture dominante en étant la culture et la seule culture qui a le droit de faire
Je comprends. Mes invités veulent réagir à ce que vous dites, Jean Tremblay.
Ben moi ce que je voudrais dire
par rapport à la culture dominante, M. Tremblay.
Ben c'est pas juste par rapport à ça. Moi, ce que dans tout ce que j'entends depuis le début puis dans cette histoire là, c'est que c'est l'escalade que j'aime pas.
Mm-hmm.
C'est qu'on a commencé par dire les hôpitaux, les palais de justice, les salles de conseil.
La police aussi.
La police. On veut faire disparaître.
Les lieux publics, finalement.
On veut faire disparaître le crucifix de partout. Puis tout à l'heure, j'écoutais, les gens ne pratiquent plus. Mais ça veut pas dire qu'ils ont pas la foi. Il faudra regarder. Cette croix-là, elle représente quoi? C'est quoi cette croix-là? Ça, on se pose jamais la question, on l'a fait disparaître, on n'est plus capable de l'endurer, mais elle représente quoi? Elle représente une personne qui a transformé le monde, qui est arrivée ici il y a 2000 ans, dont le message est contesté par personne. Il n'y a personne qui conteste son message. Même les musulmans ont beaucoup de respect pour le Christ.
Ouais.
Mais là, on dirait qu'on veut plus l'endurer, qu'on veut plus l'avoir, et historiquement, qu'on le veuille ou pas, toute la structure du Québec, là, ça a été fondé sur la croix Jacques Cartier, le drapeau du Québec. Ça a été fondé là-dessus. On dirait que nos assises sont après s'effriter.
Oui, Gilles Laporte.
Très largement. Ceci dit, on est pris avec maintenant un débat qui dérape complètement. On peut rappeler ces choses-là, mais simplement une mise au point à propos de raciser ce débat. Rappelons simplement un fait. On oppose l'immigration qui serait d'autres religions aux Canadiens français qui seraient apparemment catholiques, soit, mais qu'on reconnaisse le fait que la majorité, je dis bien la majorité de l'immigration à l'heure actuelle est d'origine chrétienne.
En plus!
Qu'elle soit latino-américaine, africaine ou antillaise, il demeure que c'est une grosse erreur, même dangereuse, d'opposer des races ou des groupes ethniques sur cette question-là qui est purement qui relève de la laïcité et de la gestion de l'État.
D'ailleurs, c'est pas un musulman qui a demandé d'enlever la croix.
Et ça, c'est important de le dire ce matin. Là.
C'est pas un musulman
qui a demandé. C'est comme une chicane de Québécois tannés du catholicisme et de la chrétienté. C'est pas une chicane. C'est pas les
on
musulmans
invente.
Là.
On invente. D'abord, il y a personne. Il y a deux semaines qui parlait de la croix à l'Hôtel de Ville.
Ben, ça fait des années qu'on en parle. Absolument.
Celle-là de l'Hôtel de Ville.
Oh,
de
Québec,
on parle de l'Assemblée nationale.
Ouais, c'est récurrent.
Mais celle-là de l'Hôtel de Ville, on n'en entend pas parler.
Il y a de l'opportunisme. Excusez, là, c'est des mots durs.
De la part de qui?
De la part de la mairesse qui veut faire du clientélisme. Elle a en face d'elle une majorité francophone qui est complaisante et des communautés qui apportent une très grande importance à cet enjeu. Elle les satisfait. Et c'est clair qu'elle va chercher le suffrage de communautés qui apportent une grande importance à pouvoir exprimer des signes religieux.
C'est ça. Vous avez parfaitement raison.
Mais même chez vous, à Saguenay, M. Tremblay, la nouvelle mairesse a fait enlever le petit Sacré-Cœur qui était là. Depuis
ben oui,
des années
bon,
à
oui.
l'Hôtel de Ville.
Il
n'y
a personne qui demandait ça non plus. À la ville, c'était bien tranquille. Il y a un petit Sacré-Cœur à peine visible. Je vous assure que vous seriez venu dans la salle du conseil, vous ne l'auriez pas vu. Puis elle a pris soin de le faire disparaître aussi. Alors, ça va partout, c'est l'escalade. Là. Regarde, ils sont rendus que les arbres de Noël. Là. Ils parlent des arbres de Noël, puis des crèches. Puis là, ça finit plus. On ne veut plus les voir dans les villages. Je me demande qu'est-ce qu'ils vont faire avec les petites chapelles. Hein, c'est de toute beauté. C'est des œuvres d'art un peu partout. Ils vont faire disparaître ça. Il y a une mission, là. Il faut se réveiller. Il y a une mission de
Mais
faire
de qui,
disparaître.
Mais de qui?
Moi, j'en ai vécu pas mal dans mon histoire de prière. J'en ai appris pas mal. Il y a des gens qui sont pas mal plus discrets qu'on pense. Parce que moi, ça m'a coûté cher... de frais juridiques, mon affaire.
Ouais.
Mais la partie adverse, elle ne disait pas un mot, mais elle s'est rendue loin aussi.
Parce que, rappelez-nous, vous avez poursuivi.
J'avais poursuivi, ça a duré 10 ans. Ça a coûté 400 000 $ de frais d'avocat. Puis, pour essayer de garder la prière au conseil municipal que je n'avais pas introduit, une petite prière de 20 secondes.
Vous disiez quoi?
On demandait au bon Dieu de nous éclairer dans dans nos décisions pour prendre des décisions justes en faveur de... secondes.
Mais sincèrement, est-ce que ça valait tout le trouble? Parce que sincèrement,
franchement,
en 2019, qu'on demandait au bon Dieu de nous éclairer, on n'est pas obligé.
On n'est pas obligé? On n'est pas obligé de rien.
Ouais.
Pas obligé de grand-chose dans la vie. Mm-hmm. Tu n'es pas obligé de te marier, tu n'es pas obligé d'avoir des enfants.
Mais j'étais dans une société laïque, disons qu'on...
Mais attention, moi, là, quand on parle de société laïque, là, je trouve qu'on est mêlé.
Mm.
Société laïque, là, c'est pas une société athée.
Mm-hmm.
C'est une société tolérante, qui tolère les autres religions.
Mais qui ne met pas de l'avant aucune religion.
Non, mais on les tolère.
Oui.
OK? On les tolère.
Mais on les met pas de l'avant, c'est-à-dire on les tolère
attention,
dans la sphère
chaque
privée.
Personne met la sienne... Ouais. De l'avant un peu.
Oui, mais si vous êtes maire d'une ville, normalement...
Attention, quand t'es catholique, par exemple, tes décisions sont influencées par tes croyances. Quand t'es athée aussi, quand t'es musulman, puis c'est normal. Puis l'influence que peut avoir la religion catholique dans les décisions d'un politicien, c'est c'est supposé être l'amour, le partage, le pardon, l'amour des pauvres, le soutien. Bon, ben c'est pas des choses négatives, ça. Donc,
c'est des valeurs humaines qui sont propres
à chacun.
Faut
pas dire à une personne. Ouais. C'est pour ça que moi, le port des signes religieux, dans un certain sens, je suis pour ça. Parce que je veux savoir à qui j'ai affaire.
Mm-hmm.
Tu sais, tu rencontres quelqu'un, il y a un col romain, tu le sais que c'est un prêtre. Il va prendre des décisions. Fais attention, c'est un prêtre. Il va prendre des décisions qui est influencé par sa religion. Un musulman, c'est la même chose. Mais c'est pas mal, mais c'est bien. Je trouve que avoir un certain signe, le visage voilé, je suis contre ça totalement. Ça, peu importe, le visage voilé, ça devrait être interdit, mais ça n'a rien à voir avec la religion. Si je suis arrivé ici ce matin avec le visage voilé, là, peu importe ma religion, vous m'auriez mis dehors. Vous auriez dit, moi, je ne parle pas avec quelqu'un qui a le visage voilé. Mm-hmm. Ça ne marche pas, ça, le visage voilé. Tu ne peux pas aller à la banque, le visage voilé.
Oui, complètement voilé.
Ça n'a pas de bon sens.
Ouais.
Mais pour le reste...
On n'a pas vraiment de
on n'est pas d'accord. Vous proposez, en somme, une surenchère des signes religieux.
Non,
ça
pas une surenchère.
Ça revient à ça si les gens sont libres d'exprimer leur religion. Il faut les minimiser. C'est la laïcité. Il faut masquer le caractère religieux d'un individu pour assurer une forme d'équité. L'élément pour que personne ne se sente heurté. Ceci dit, il faut que ça soit fait de manière respectueuse, équitable entre les communautés.
Vous n'aimez pas mieux le savoir. Vous allez voir, par exemple, vous êtes à...
Ben, dans le cas,
vous allez à l'hôpital, puis mettons, le médecin, il y a une croix sur lui.
Mettons que le médecin, il est témoin de Jéhovah, puis t'as besoin d'une prise
de sang.
Je ne veux pas le savoir, et je souhaite qu'il minimise cette part-là. Très bon exemple avec les prises de sang, puis les témoins de Jéhovah.
Bon,
là,
mais c'est le médecin.
On a un très bon cas.
T'es dans le groupe,
ben,
je veux
savoir.
On va aller à la pause là-dessus.
Vous êtes bien mieux de le savoir, sinon vous ne le saurez jamais.
Sylvain, bonjour. Votre opinion là, sur les fameux signes religieux. Quelle place désormais pour le crucifix au Québec?
Ben, écoutez, moi, depuis que je vous écoute parler depuis tantôt, là, je suis choqué. parce que, premièrement, on était prêt à perdre nos églises. Deuxièmement, quand j'ai fait baptiser ma fille en 2004, le prêtre m'a carrément dit, il va falloir que tu apprennes ta religion à ta fille. Là, on a d'autres gens qui viennent de l'extérieur qui nous imposent leur religion. Nous, il va falloir enlever nos crucifix. On est chez nous. C'est pas à nous à s'adapter, c'est à eux à s'adapter. Tu sais, quand on me dit, là, monsieur avant, là, qui disait, là, on fait des petites salles, puis vous faites vos prières, tout ça, là, j'ai écouté, moi, je vais à Ronde, là, avec ma fille, là, puis ils sont sur un tapis, puis ils prient. Est-ce qu'ils sont dans une petite salle? Non. Tu sais, je veux dire, s'ils veulent qu'on enlève nos crucifix, nos choses, enlevez vos voiles, enlevez vos turbans. Comme ça, il n'y aura plus de problème.
Merci beaucoup. Merci, Sylvain.
C'est d'équité. C'est excellent.
Caroline est avec nous. Bonjour, Caroline.
Bonjour. Exactement la même chose que la personne précédente. Le Québécois, là, c'est un vaincu. Il a le genou à terre, tout le temps promis à faire à se jeter à terre devant les autres. Ça n'a comme pas de bon sens. On est des mous. Vraiment, vraiment. Là, parce que les Arabes n'ont même plus besoin, les musulmans, de nous demander quoi que ce soit. On le fait pour eux avant qu'ils le demandent. Ils sont morts de rire.
Mais puis ils l'ont pas demandé. Là. La communauté musulmane n'a rien demandé
non,
de ça.
Non, ils n'ont même
là.
Plus besoin. Ils n'ont même plus besoin de le demander. On le fait. Mm. On le fait pour eux. Au cas où que je chialerais.
Vous n'avez pas l'impression que c'est quand même des... Tout à l'heure, c'est Luc Faneuve, qui parle, le théologien, qui disait que c'est vraiment les Canadiens français qui, à la base, bon, on dit Québécois aujourd'hui, mais les Québécois qui rejettent la religion. Donc, c'est entre Québécois que ça s'est discuté, d'abord, ce rejet. Si je ne me trompe pas, Gilles Laporte peut peut-être ressentir.
Oui, oui, ça s'est fait d'une certaine sérénité. Tout le long des années 60-70, les conseils municipaux ont retiré la prière, les crucifix. Et là, il y a un contexte nouveau où, où littéralement, des communautés souhaitent-elles mettre de l'avant les signes religieux. Quelle est notre réaction? Notre réaction devrait être d'assurer de l'équité. Et là, je souhaite bonne chance au gouvernement Legault qui, à Québec, doit ménager le chou à chef de cette question-là. Ouais. Accompagnons un projet de loi sur la laïcité devient responsable, équitable, en se gardant des extrêmes, parce que, encore une fois, les plures de bananes sont trop nombreuses pour qu'on commence à imaginer braquer une communauté contre une autre.
Ah ben, je suis contente, on a Walid qui est musulman qui nous appelle. Bonjour Walid, votre opinion là-dessus?
Oui, bonjour. Alors, mon opinion est très simple. Moi, je suis musulman. Mais je crois qu'en enlevant le crucifix à la mairie de Montréal, je suis vraiment contre, parce que on peut pas faire et défaire des croyances des croyances comme ça qui sont là depuis les années 1930. Ça marche pas, c'est dans l'histoire du Québec. Moi, j'ai fait mon primaire, j'ai fait mon secondaire ici, je suis issu d'une famille d'immigrants. J'ai fait mon cours d'histoire en secondaire. C'est tellement important. Le crucifix, c'est beaucoup plus qu'un simple signe religieux. C'est quelque chose qui parle pour l'histoire du Québec. Le Québec, en 1534, c'est une grande histoire. Moi, je crois personnellement, je ne veux pas trop débattre là-dessus, je crois qu'en enlevant le crucifix à la mairie de Montréal, c'est comme si on crachait un peu sur l'histoire du Québec, respectueusement.
Ben, merci, Walid, de nous dire ça. Merci bien. Il y en a qui aiment cracher beaucoup aussi sur tout ce qui est québécois. C'est certains Canadiens anglais. On l'a vu encore au séjour-ci où il y a une chroniqueuse qui a parlé carrément de Québécois racistes encore où on se fait encore traiter de xénophobes, d'anti-immigration. Je veux dire, le débat prend une tangente assez douloureuse, M. Tremblay. Qu'est-ce
que vous en pensez? Oui, puis on oublie que...
Et c'est que le début, malheureusement, j'ai l'impression.
Oui, ça prend de l'ampleur, ça prend de l'ampleur. On a été fondé là-dessus. Jacques Cartier est arrivé avec sa croix. Tous les Français qui sont arrivés au début, c'était des missionnaires. Ils s'en venaient là-dessus. Oui, on peut aujourd'hui avoir des gens. On est dans une période où la foi est moins intense. On peut comprendre ça, puis il faut l'accepter, mais il faut quand même reconnaître le fait historique.
Ouais. Le fait qu'on prenne le crucifix de la salle du conseil de ville de Montréal et qu'on le mette dans un coin de l'hôtel de ville, dans une petite boîte musée.
C'est ça. Tu sais, on va tout
mettre. Ça vous va, ça?
Non, ça me va pas. Si c'était seulement ça. Si on faisait cette croix-là et on ne parle plus maintenant, dans l'avenir, c'est fini. Après celle-là, ça va
c'est
être une autre.
C'est le salon bleu, probablement.
Tu sais, notre drapeau sur lequel il y a une croix catholique.
Ouais.
On va faire quoi dans 20 ans? Là, aujourd'hui, personne ne va en parler, c'est sûr, parce qu'on sait qu'on n'est pas rendu là et que si on en parle, ben il va y avoir une tollée, là, ça ne fera pas. Mais
vous craignez qu'on
ben, moi,
finisse
je le
par
crains,
gommer
parce que, quoi,
tous
quand
les...
Quand t'es rendu que c'est les crèches de Noël, que c'est...
Joyeux décembre.
Ouais. Une prière au conseil municipal, comme disait Gilles tantôt, ça s'est effrité tranquillement. Moi, je suis d'accord. Si tu veux pas la dire, tu la dis pas. C'est vrai. Mais nous autres, on était unanimes à vouloir la dire. C'était unanime. C'est ça que moi, je me dis, laissons une liberté aux gens.
Merci d'être venu nous voir, monsieur le maire de Saguenay.
C'est
bien. Gilles, le mot de la fin.
Équité. Assurons l'équité et n'en faisons pas une question partisane. Et c'est l'impression que j'ai à propos du geste de la mairesse de Montréal.
Ouais. Est-ce que tu penses que le débat va s'élargir au Salon bleu de l'Assemblée nationale?
Nécessairement. Et là,
nécessairement, tu
oui, dis? Parce que là, comment je pourrais dire? Il y a eu de l'arrogance qui était... Et là, le premier ministre doit en tenir compte. Il est engagé dans une démarche responsable visant à ce que l'espace religieux, l'espace public soit exempt de signes religieux. Accompagnons-le dans cette démarche.
Et s'il vous plaît, on arrête de traiter tous un chacun de raciste parce que ça finit par être pénible. Merci beaucoup, Gilles Laporte. Merci beaucoup, Jean Tremblay. On s'arrête ici tout de suite après la pause. On va parler du marché du travail pour les 40 ans et plus.